Et tout de suite, donc, le moment de retrouver mon invité pour, ce sera donc une émission régulière avec Martine Vallon de la FNE 04 France Nature Environnement. Bonjour Martine.
Bonjour.
Aujourd'hui, on va parler encore de l'eau. C'était déjà le sujet de la première émission sur notre antenne. Et cette fois, on va voir la gestion de l'eau avec les contrats de rivière. Qu'est-ce que les contrats de rivière? À quoi ça sert?
Oui. Alors, j'ai voulu effectivement qu'on poursuive sur cette question de l'eau, puisque nous sommes en ce moment, mois de juillet, pour notre département, et cela régulièrement depuis les dernières années. Nous avons des périodes de vigilance et des périodes de difficultés concernant cette ressource. Et donc... L'idée de parler des contrats de rivière, les contrats de rivière sont des moyens de gérer le mieux possible la ressource en eau. Donc nous avons en termes de gouvernance, je dirais, de ces questions-là, la mise en place d'un certain nombre de dispositifs et notamment ce qu'on appelle le SDAGE, c'est-à-dire le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau, qui est destiné à... organiser l'utilisation de l'eau au mieux de la préservation de la ressource et de la réponse aux besoins généraux. Il faut savoir que notre utilisation de l'eau est en augmentation constante, alors que la ressource en elle-même est au contraire en diminution, et notamment depuis ces quelques dernières années avec les problèmes de dérèglement climatique, avec l'évolution du climat. Nous savons que sur notre région et sur notre département, l'eau va devenir de plus en plus rare, que les précipitations diminuent, les quantités d'enneigement diminuent aussi, et donc il est extrêmement important de commencer à réfléchir sérieusement à comment nous allons faire face à cette situation-là et comment nous allons essayer de diminuer certains besoins et puis de gérer mieux la ressource dont nous disposons et de la distribuer de façon équitable. C'est un problème, il faut savoir que nous avons sur le département donc 24 rivières. Alors, j'ai pas compté le nombre de kilomètres, mais c'est quand même relativement important. Nous avons par exemple des rivières qui font 60 kilomètres, des petites rivières, mais 82 kilomètres Lubaye. Enfin, vraiment, on a des rivières qui sont très longue, donc qui apporte une ressource à de nombreux villages, puisque aujourd'hui la plupart des villages utilisent l'eau de rivière et pompent dans les rivières et non plus suffisamment avec des sources locales pour alimenter même en eau potable. Donc on a des systèmes de pompage et de potabilisation qui apportent l'essentiel de l'eau dans de nombreux villages et villes du département. Donc l'organisation qui s'est mise en place en fait se fait à travers donc ce schéma directeur et puis à travers une organisation plus locale sur ce qu'on appelle les bassins versants, c'est-à-dire en gros les vallées qui sont irriguées par ces rivières différentes. Et donc comme un comité de pilotage se crée au niveau de l'ensemble du bassin versant avec le regroupement de tous les utilisateurs, que ce soit les représentants de l'agriculture, les représentants des communes, donc les maires ou les délégués des communes, les pêcheurs, les associations de protection de l'environnement. Donc tous ces gens-là, toutes ces organisations se mettent d'accord pour essayer de maintenir un bon état des eaux de la rivière qui les concerne. Et quand je dis maintenir un bon état des eaux, à l'heure actuelle, c'est souvent remettre en état. Remettre en état des rivières qui sont abîmées par la pollution, par la trop forte utilisation qui fait que le niveau de l'eau baisse par certains moments et donc avec une eutrophisation par exemple. Donc, quand par exemple une rivière a un fonctionnement avec un débit qui varie en fonction des saisons. Sur l'été, nous avons ce qu'on appelle le débit d'étiage, donc un niveau minimum d'écoulement de la rivière. Lorsque on atteint ce niveau minimum, cela entraîne un certain nombre d'impacts sur la rivière, c'est-à-dire, par exemple, l'eau se réchauffe plus vite, donc on a une diminution de la quantité d'eau, donc le soleil impacte, on a un réchauffement, on a une concentration des polluants. Et on a aussi une eutrophisation, enfin, une augmentation de certaines des mousses, des choses comme ça, donc qui fait que la rivière devient à cause aussi de la diminution d'oxygène, puisque dans ces cas-là aussi, c'est l'oxygène qui diminue. Donc on a voilà, une rivière qui est fragilisée, qui est malade, je dirais, et donc dans laquelle, effectivement, la vie diminue, puisque le milieu est en évolution.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ?
Donc l'organisation, effectivement, à travers le schéma directeur et la mise en place de contrats de rivière est faite pour réparer et pour remettre en état ces rivières qui ne le sont plus. Donc lorsqu'on signe un contrat de rivière, ça se fait de façon consensuelle, donc avec tous les partenaires, et on met en place un certain nombre d'objectifs. De récupération du bon état des eaux. Pour atteindre ces objectifs, de nombreuses actions sont envisagées. Alors, on peut avoir des actions qui sont, par exemple, une diminution. Alors, là, on y reviendra un petit peu par rapport aux questions d'aujourd'hui, c'est-à-dire le stade d'alerte concernant la sécheresse. Mais en temps ordinaire, le contrat de rivière permet, par exemple, de remettre en état un certain nombre de structures qui ont pu être créées sur la rivière. Nous avons, par exemple, lorsqu'il peut y avoir un barrage, l'idée, de façon aussi à rétablir le courant de l'eau et à permettre à la vie et aux poissons de circuler, on peut faire ce qu'on appelle des passes à poissons, par exemple, qui permettent à un certain moment que les poissons puissent sauter le barrage et réinvestir l'aval de la rivière. L'aval, l'amont, circuler dans la rivière. Il peut y avoir, par exemple, la nécessité de remettre en état un certain nombre de digues. L'objectif de remise en état passe aussi par ce qu'on appelle le classement des digues. Ça se fait depuis quelques années sur un certain nombre de digues du département où, effectivement, on avait des ouvrages très anciens, très abîmés et qui nécessitent de gros investissements pour être remis en état. Donc là, avec la procédure de classement des digues plus le contrat de rivière, il est possible d'obtenir des financements pour la remise en état de la rivière et de ses digues notamment. Alors ça veut dire aussi, par exemple, que dans certains endroits, le paysage va changer. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des digues qui étaient très anciennes, qui se sont plus ou moins délabrées, et surtout sur lesquelles la végétation a repoussé. Et donc là où on a des grands arbres, des buissons, des petits endroits qui sont magnifiques et qui sont des zones humides, mais sur lesquelles on va peut-être être obligé d'intervenir. Notamment lorsqu'on a près d'une digue un très gros peuplier, par exemple, sont des arbres qui ont des durées de vie pas si importantes que ça. Il peut y avoir un arbre qui meurt. Et donc, le pourrissement des racines entraîne aussi la possibilité pour l'eau de s'infiltrer dans ce que ces galeries que les racines ont pu creuser sous la digue et d'entraîner, si on a une augmentation de l'eau, d'entraîner des dégâts importants et peut-être un débordement. De la même façon, ces arbres qui ont poussé, si on a une montée des eaux, par exemple une crue décennale, centennale, comme il en arrive de temps en temps, parce qu'on est un département où les rivières fluctuent énormément, l'arbre est emporté, crée une embâcle et on a ensuite des dégâts beaucoup plus importants. Donc ça signifie que quand on refait une digue, on se doit aussi de l'entretenir. Alors déjà, d'enlever un certain nombre de la végétation qui existe et ensuite de maintenir quelque chose de net et de propre. Ce qui risque de poser à certains moments des problèmes parce qu'aujourd'hui, on s'est habitué par exemple à un endroit merveilleux avec des grands arbres où on va se promener et puis tout d'un coup, il va y avoir des travaux qui vont couper ces arbres et où on va être obligé de détruire ce lieu auquel on s'est habitué.
Donc là, en plus, on a l'impression que la nature est bien faite et que normalement, tout s'adapte.
Oui, alors la nature est bien faite, tout s'adapte, mais malheureusement, je crois que c'est l'être humain qui, dans certains cas, ne s'adapte pas vraiment. Donc c'est vrai qu'on peut voir, par exemple, dans certaines régions qui ont subi des inondations, autrefois... les maisons étaient construites, par exemple, avec un premier niveau de cave qui n'était pas habité, qui était quelque chose qui permettait... On habitait à partir du premier étage et lorsque le fleuve est en crue, eh bien, on se réfugie au premier étage et la maison est prévue de cette façon-là. Aujourd'hui, évidemment, ça n'est plus le cas. Dans d'autres cas aussi, on peut avoir, par exemple, une urbanisation forte, des parkings importants. De plus en plus, on a des constructions qui se font dans le Limageur ou pas très loin, dans des zones qui sont toujours inondables, en cas d'eux. Et donc, dans ces secteurs-là, effectivement, plus le sol est bétonné plus on a des parkings et des routes, etc., et moins l'eau va pouvoir s'infiltrer. Et donc, plus elle va arriver avec force de nouveau dans la rivière pour la faire grossir. Donc, les questions de risque sont liées à effectivement une organisation, une gestion et un entretien des cours d'eau, mais aussi à une réflexion sur ces questions d'urbanisation et jusqu'où on va et comment on essaie de raisonner en laissant à la rivière une possibilité de s'étendre, une possibilité parfois de déborder de son lit. Donc, sur ces organisations en contrat et ce qui se met en place autour de ces questions de risque et de gestion des eaux, il y a souvent des difficultés parce que lorsque la ressource accessible diminue, effectivement, dans la mesure où, dans un même temps, les besoins ont augmenté pour diverses raisons. Par exemple, en agriculture, l'agriculture, c'est 75% de l'utilisation de l'eau. Aujourd'hui, l'agriculture, pour des questions de rentabilité, nécessite de plus en plus d'utilisation de l'eau. Et notamment, on commence par exemple à arroser des cultures qui ne l'étaient pas autrefois.
C'est-à-dire ?
Bien, par exemple, aujourd'hui, on voit des oliviers qui sont arrosés. Alors, Les agriculteurs vous diront, la sécheresse augmente, donc on est obligé d'arroser les oliviers. Mmh. Sauf que ça fait une espèce de plus qui va demander de l'eau. Et je pense qu'il y a aussi là des réflexions à avoir par rapport au choix de ce qui peut être implanté et au choix de l'évolution des variétés aussi, même lorsqu'on parle de variétés autochtones par rapport à des cultures ou bien de variétés qui sont classiques dans une certaine région, je dirais. Aujourd'hui, avec les systèmes de... le fait de vouloir avoir un rendement de plus en plus important fait que l'on sélectionne les variétés sur le critère du rendement et non pas sur le critère de l'adaptation
au climat,
l'adaptation au lieu où sont plantées les espèces, etc. Et donc, en fait, à force de sélectionner sur ces aspects de rendement, effectivement, on a fragilisé un certain nombre d'espèces, de plantes, et du coup, elles ont besoin d'apports qu'elles n'avaient pas autrefois. Mmh. Donc, cette question-là se pose. Aujourd'hui aussi, on a, par rapport aux citoyens lambda, une utilisation de l'eau qui est peu économe. Donc, on a, alors, par le fait qu'effectivement... on n'a plus à aller chercher l'eau au puits, donc c'est tellement facile.
Oui,
le robinet
courante,
qui s'ouvre,
c'est...
l'eau
oui.
courante permet de... C'est un confort qui diminue la conscience qu'on peut avoir de l'importance de la ressource. Alors, je ne dis pas qu'il faut retourner au puits, bien évidemment, hein, on n'en est plus là. Mais on a aujourd'hui des moyens qui sont, des moyens techniques qui permettent, les robinets qui sont automatiques, par exemple, les diminutions de quantité sur certains caissons d'eau, pour permettre justement de conserver un même état de confort, mais de diminuer la quantité d'eau nécessaire. Après, on a aussi tout ce qui est le désir d'avoir une piscine. Évidemment, aujourd'hui, on voit que ça peut être un souci avec, par exemple, l'état d'alerte dans lequel on arrive en ce moment. Donc, je crois que sur ces questions-là, il y a vraiment un travail à faire de réflexion sur comment maintenir l'irrigation, par exemple, et quels moyens on peut avoir, notamment sur des possibilités de réserve, etc., mais aussi comment diminuer les besoins au niveau agricole, comment diminuer les besoins au niveau individuel aussi, comment essayer d'être plus économe. Tout ça est une responsabilité que nous avons, et non seulement une responsabilité, mais c'est aussi répondre à une réalité. C'est aussi faire face à une situation qui est en train d'évoluer. On est sur un département où... certains villages, on voit parfois certains villages qui ont été désertés. On peut le lire. Si on lit Giono, on peut avoir une idée comme ça, parfois, de l'impact du tarissement d'une source. Et un hameau disparaît du jour au lendemain, quasiment. Cette chose-là peut encore arriver sur notre département. Je crois que cela, pour des raisons de diminution de la ressource et dans certains cas pour des raisons de pollution aussi. Donc c'est extrêmement important de faire face maintenant et d'imaginer comment on peut être plus raisonnable.
Et ça, par rapport à, je pense aux particuliers qui ont des piscines, et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus dans le département, à la fois parce qu'il fait chaud et que c'est un moyen aussi d'être en vacances chez soi. Comment ça va être possible de gérer ça en cas d'alerte d'eau, enfin alerte sécheresse? Est-ce que les gendarmes vont venir chez les particuliers pour dire maintenant il faut bâcher votre piscine et puis c'est terminé quoi. Ça paraît difficile à contrôler. Hein. Ça, déjà, on le voit bien, les personnes qui ont des petits jardins ou des fleurs n'ont pas envie de les laisser mourir sous prétexte qu'il faut économiser l'eau.
Alors, aujourd'hui, par exemple, nous sommes sur le département, donc en état d'alerte sécheresse sur un certain nombre de secteurs du département. C'est pas tout à fait l'ensemble, mais on a quand même pas mal de communes impactées. Hein. Donc tout ce qui est sur le bassin versant du Calavon, donc Banon, Céreste, Simiane, La Rotonde, Vachère, en fait toute cette vallée. On a le secteur Allemagne, Puy-Moisson, Saint-Martin-de-Brome, Riez, donc le Colostre, tout ce aussi. Le Largue, donc avec Mannes, Angles, Reillanne, Céreste, donc aussi une grande vallée. Et puis le secteur Cruisse, Fontienne, Lurs aussi. Donc ça fait quand même...
Ça fait beaucoup de villages impactés.
Beaucoup de, hein, et je ne les ai pas cités tous, d'accord. Donc beaucoup de villages impactés aujourd'hui par cette question d'alerte sécheresse. Alors ça ne signifie pas, aujourd'hui c'est le premier niveau, le niveau d'alerte, d'accord. On n'est pas encore en crise, mais...
Il faut faire très, très
temps,
attention.
Les quelques orages qu'il a fait ne suffisent pas. Là aussi, c'est un des éléments difficiles parce qu'on n'a pas conscience de ça. Forcément, on dit « Ah oui, il a plu hier. Mmh. » Oui, il a plu, il a fait un orage, mais ça n'est... Voilà,
il n'y a pas eu suffisamment de...
Ça ne renforce pas la nappe d'eau, ça ne renforce pas la rivière. C'est juste un petit arrosage pour les plantes de surface, mais pas plus. Donc là, aujourd'hui, concernant l'arrosage des fleurs, on n'est pas encore... Il faut faire attention et uniquement... Il est permis la nuit, d'accord. On a une interdiction de laver les automobiles, autre part que dans des stations de lavage où l'eau est recyclée. Donc là, ça paraît quand même assez raisonnable. Et je pense que... Tout le monde peut comprendre que effectivement, si on veut, on tient absolument à laver sa voiture. Bon, ben, il y a quand même des stations où on peut le faire. Et concernant les piscines, justement, le remplissage est interdit, mais on peut mettre à niveau, c'est-à-dire qu'on peut rajouter un petit peu pour compenser l'évaporation. Alors, évidemment, c'est pas le moment de vider sa piscine et de la re-remplir, bien sûr. Donc aujourd'hui, on peut dire aussi que techniquement, il y a des systèmes qui permettent d'avoir de l'eau sans être obligé de renouveler l'eau de la piscine en permanence. Je veux dire, il y a des filtres qui permettent de recycler l'eau. Des formules plus ou moins bio, mais
il y a des moyens.
Il y a des moyens quand même. L'important, c'est effectivement de se rendre compte de l'impact que le comportement individuel peut avoir sur l'ensemble du fonctionnement de la collectivité et de son avenir et de ses besoins. Alors, ce qu'on revendique, je dirais, de notre côté, pour justement essayer de gérer tout ça de façon la meilleure possible, C'est une recherche sur une évolution de mode de vie, de technique d'agriculture, de mode d'agriculture. C'est une réflexion aussi sur l'évolution au niveau des technologies industrielles qui permettent certaines très grandes entreprises d'essayer de diminuer la consommation. Simplement, il est important de définir des priorités d'usage. Aujourd'hui, et notamment quand on est, par exemple, dans une période d'alerte, c'est là où on doit choisir entre le golf et la boisson. Je crois qu'à un certain moment, il y a là des enjeux suffisamment forts, suffisamment importants pour que on puisse abandonner un certain nombre de pratiques qui sont peut-être pas les plus adaptées à notre environnement actuel. Donc, il n'est pas question de tout supprimer ou d'interdire de planter quoi que ce soit, mais réfléchissons à comment on peut s'adapter à ce qui se passe aujourd'hui. Ensuite, bien sûr, il ne faut pas oublier que ce qu'on ne pompe pas dans la rivière, parce que la difficulté aussi parfois aujourd'hui, c'est de définir quel est ce qu'on appelle le débit objectif d'étiage, c'est-à-dire le niveau d'écoulement dans la rivière au-dessous duquel il ne faut pas aller. Et donc là, ça entraîne pas mal de frictions, parce que bien sûr, celui qui a besoin d'eau veut pomper plus, et celui qui se dit « la rivière, si on pompe plus, elle meurt », là, on a effectivement des moments de crispation. Je crois que ces questions-là pourrait être un peu dépassé en essayant de réfléchir au fait que la rivière, demain, il n'y a plus aucune vie dedans, c'est tous qui auront un manque, et c'est tous, enfin, nous, on en pâtira tous. Il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec des vieilles personnes, là, des vieux pêcheurs qui me disaient « Ah, quand j'étais petit, il y avait des truites dans cet endroit, là il y avait des trous, on allait, et aujourd'hui il n'y a plus rien. » Je veux dire, il n'y a plus rien parce qu'effectivement, on a pollué, donc certaines espèces, et notamment par exemple des poissons comme les truites, ont besoin d'une eau extrêmement propre, extrêmement claire. Et donc, bien évidemment, dès l'instant où on a stocké des poubelles sur le bord de la rivière pendant des années, ça a diminué forcément la qualité de l'eau. On a pompé, donc on diminue les quantités. On rejette, dans certains endroits, on rejette un certain nombre ou de l'eau plus chaude, ou les eaux thermales, des déchets qui peuvent encrasser la rivière aussi, enfin, etc. Donc effectivement, toutes ces actions auxquelles on ne prend pas garde, aujourd'hui, il est nécessaire d'arrêter les actions néfastes et de se dire aussi qu'il est important qu'une rivière conserve une quantité d'eau permanente. Et que effectivement, quand le débit commence à baisser, la seule solution, c'est d'en retirer moins pour que il en reste un peu pour les poissons, par exemple.
Alors, on parle bien sûr de sensibiliser les gens, les entreprises, les usines, évidemment, mais aussi chez soi. Par exemple, j'espère L'association J'espère donc propose du petit matériel installé chez soi pour réaliser des économies d'eau, comme les régulateurs de débit et des sacs à mettre dans les réservoirs des WC. C'est des petites choses, mais qui peuvent permettre aussi de réduire la consommation d'eau.
Oui, tout à fait. Et des petites choses qui peuvent avoir beaucoup d'importance. On parle par exemple les réservoirs de WC. Mm-hmm. Donc lorsqu'on tire la chasse d'eau, c'est à peu près 10 litres d'eau qui s'en vont.
Et oui.
10 litres d'eau, j'allais dire, pour chaque petit pipi. Mm.
C'est énorme.
Ça finit par être extrêmement important. Donc effectivement, une des solutions préconisées parfois, c'est de mettre des briques ou des sachets dans le réservoir, de façon à diminuer la quantité du réservoir, qui fait que quand on tire la chasse, au lieu de 10 litres, ça va être peut-être 5 litres qui vont partir. Donc après, là, il y a une question d'équilibre à faire, effectivement, pour que le fonctionnement soit toujours correct, et qu'en même temps, on ait une certaine économie. Il y a aujourd'hui aussi... Bon, techniquement, pour les douches, par exemple.
Oui, des régulateurs aussi.
Voilà, des pommeaux de douche qui sont spéciaux, qui ont été, voilà, pour diminuer les quantités tout en conservant la sensation de l'écoulement qui est nécessaire aussi psychologiquement. On a aussi besoin.
Voilà. Ouais.
Donc, mais... Les techniques s'améliorent. Si on veut bien chercher, on trouve des solutions, des techniques qui permettent de répondre aux problèmes. Mm-hmm. Le souci, c'est effectivement quand on ne souhaite pas chercher ou qu'on ne veut pas voir qu'il y a problème. Donc ça, c'est... Et je crois qu'aujourd'hui, sur notre département... cela fait de nombreuses années qu'on a un arrêté sécheresse régulier chaque été au mois de juillet. Donc là, cette année, il est même un petit peu plus tôt que l'année dernière. On est dans un état de déficit qui semble un peu supérieur encore à l'an passé. Il est temps justement de se dire... prenons ça en compte, non pas comme étant un épisode momentané, aléatoire, mais voilà, ça dure depuis des années, donc peut-être qu'il faudrait imaginer que ça va durer et qu'il faut faire quelque chose.
Et voilà, l'eau, c'est quand même quelque chose qu'on ne peut malheureusement pas fabriquer, quoi.
Tout à fait, tout à fait. Et... alors, on peut, dans certains cas, améliorer, aménager, dépolluer, effectivement. Et donc, quand on dépollue une rivière, progressivement, elle reprend vraiment sa place. Mais la quantité, on ne pourra pas influer là-dessus. Donc, effectivement, c'est important. Et donc, pour nous, au niveau de la gouvernance, je dirais, un des souhaits qu'on formule aussi serait que les aides accordées, par exemple, dans le cadre des contrats de rivière ou bien dans le cadre d'un certain nombre de projets, que les aides accordées, par exemple, par la région, soient conditionnées au respect des milieux aquatiques et de leur fonctionnement. C'est-à-dire que quand on met en place, effectivement, un contrat de rivière, bien qu'il y ait une évaluation de l'impact et de ce qui se fait véritablement, et qu'on reste, dans certains cas, très, très strict par rapport aux nécessités de conserver un certain volume d'eau dans les rivières, et qu'à un certain moment, l'interdiction de pomper, l'interdiction d'utiliser l'eau lorsque le niveau est trop bas, soit vraiment strictement encadré. Bon, je ne sais pas trop si j'ai beaucoup d'autres messages à faire passer, mais je crois que, enfin, oui, l'essentiel serait que chacun véritablement se rendre compte de et une action positive sur cet aspect-là, parce que c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui est aussi vivre en harmonie avec notre environnement, c'est aussi respecter cet environnement et reconnaître les bienfaits qu'il nous apporte et essayer de les rendre quelque part, au lieu de continuer à polluer, je dirais, sans regarder autour de soi.
Par rapport aux particuliers, à un moment, on entendait beaucoup parler de récupérateurs d'eau de pluie, là, ces bidons, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ?
Oui, alors c'est vrai que ça sont des petites actions qui sont aussi extrêmement intéressantes. Je pense que le souci aujourd'hui, là, sur ces questions-là, peut venir des aspects de risques encourus sur les questions du moustique tigre. En fait, on est aujourd'hui avec une... Alors, normalement, le lieu principal de reproduction, c'est plutôt des petites quantités d'eau. Donc, on parle des eaux oubliées sur les coupelles sous les pots de fleurs ou bien... une vieille casserole qui traîne dans un coin et il y a un fond d'eau, etc. Donc c'est plutôt ça, plutôt que des grandes quantités d'eau. Donc logiquement, les réserves de ce type ne devraient pas être impactées par ces aspects-là. Je crois que c'est aussi... ça fait partie de tout ce qui peut être fait individuellement. De la même façon, par exemple... tout ce qu'on peut connaître sur l'utilisation de l'eau dans des pays comme Israël, où il y a eu quand même des mises en culture très importantes qui ont été faites, et avec une ressource quand même assez faible, minimale. Donc je veux dire, les systèmes de goutte à goutte sont des systèmes qui fonctionnent très bien au niveau agricole et qui sont... même en état de stade d'alerte, qui sont autorisés. C'est-à-dire que si certains types d'arrosage, comme l'aspersion par pompage, c'est plutôt le pompage aujourd'hui qui doit être restreint aux périodes nocturnes. Par contre, l'arrosage au goutte à goutte, lui, est tout à fait, même en période d'alerte, tout à fait autorisé. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir un certain équilibre entre le besoin et comment on peut répondre aux besoins avec un phénomène d'économie malgré tout.
Mais qu'est-ce qu'on peut arroser au goutte à goutte comme culture ? On ne peut pas faire ça pour un grand champ ?
On ne peut pas faire ça pour un champ de blé, effectivement. Ouais. Mais tout ce qui est potager,
oui.
Tout ce qui est maraîchage, on peut fonctionner tout à fait de cette façon-là. Ouais. Après, on a aussi, au niveau des vergers, il peut y avoir des systèmes qui sont autres que l'aspersion, mais plus au pied des arbres et plus avec une moindre évaporation. Après, je ne suis pas... Là, il faudrait faire venir technicien de la chambre d'agriculture pour expliquer. Mais il y a de multiples possibilités qui nécessitent effectivement parfois des évolutions, des changements d'habitude. C'est surtout ça, je veux dire. C'est la même façon, ouvrir le robinet et se laver les mains en se laissant l'eau couler, ou bien l'ouvrir, mouiller, refermer et réouvrir pour rincer. Je veux dire, c'est tout bête. C'est une différence importante sur la quantité d'eau utilisée. Et c'est juste un comportement qu'il est nécessaire de réfléchir, de vouloir et de mettre en place. C'est surtout ça qui est difficile.
Voilà, ben Martine Vallon, merci pour toutes ces explications. Et puis on va espérer donc que chaque auditeur prendra conscience. Je pense que déjà la prise de conscience pour de nombreuses personnes est prise. Il y a eu quand même des campagnes de sensibilisation régulièrement pour modifier nos comportements, de ne pas laisser couler le robinet quand on se brosse les dents ou quand on se lave les mains, par exemple. Mais, et puis, le matériel ménager a bien aussi a progressé au niveau. Il y a des machines à laver la vaisselle qui sont
économes en eau. Enfin, oui, voilà. les cycles courts pour les lave-linges. Enfin, voilà. Beaucoup de réponses existent, effectivement. Je pense qu'il faut poursuivre et essayer en effet de convaincre autour de soi aussi lorsqu'on voit quelqu'un qui n'a pas encore vraiment pris conscience de l'importance de cette question.
Merci Martine. Et puis est-ce qu'on va se retrouver fin août ou fin septembre ?
Je pense que fin août, c'est possible.
C'est possible. Oui. Alors si c'est le dernier mercredi d'août, c'est le 31. Donc on prend rendez-vous déjà pour une prochaine émission sur l'environnement avec vous Martine Vallon. Merci, et puis on va se quitter avec une chanson, par exemple, la chanson de la pluie. Bonne journée Martine,
bonne journée,
au revoir.
Merci à vous, au revoir.
Mm-hmm.